There is this thing. Do you realize
what is?
There is this thing. Do you realize
our consciousness is affected?
There is this thing.
On.
There is this thing going on.
Welcome to CQUT's community news program. This is a Friday edition of Off the Hour. We are 13 days into the month of April. My name is Stéphanie. I'm your host tonight. On tonight's show, we bring you extensive coverage of the Quebec student strike with our Red Square report. On April 9, students and union activists rallied together at Place Émilie-Gamelin to continue the momentum of the strike and to call for a Printemps Québécois. CQUT's Carla Green was at that demo and we'll hear her report. We'll also hear a report on a feminist action against tuition hikes in Montreal by Nick Boisvert, as well as audio from a blockade yesterday morning in Valleyfield, where students defied an injunction at Valleyfield College, which would have forced them to return to classes despite a majority of students being in favor of the strike. But first up on the show, we bring you the Harper Bazaar, our biweekly roundup of news and analysis on the Stephen Harper Conservative government. Today, David Tassium interviews community activist Ed Lee on the impacts of the proposed Bill C-31, sometimes referred to as the Refugee Exclusion Act, on queer refugee and migrants. You're listening to Off the Hour, breaking all corporate and state-created sound barriers on CQUT 90.3 FM in Montreal. To reach Montreal's Community News Collective or to get involved, call 514-448-4041, extension 6788. Stay tuned, we'll be right back.
Paradox of freedom. It is freedom that makes us human. Whether it leads to heroism or depravity depends on how we use it.
The Harper Bazaar.
Bi-weekly review of the Canadian Conservative government's actions.
Every second Friday on CKUT Community News Collective's Off the Hour, 5 to 6 p.m.
Problem is when the house is on fire, the first thing you have to do is you have to bring out the hoses and spray water all over it. You can't worry about whether you're flooding the basement. And I say that as a conservative.
God save the queen! The fascist regime! They made you a moron! Potential hate bomb! God save the queen! She ain't no human being!
Welcome back to Off the Hour here on CKUT 90.3 FM. This is the Harper Bazaar. Last week, CKUT's David Tassium spoke on the phone with Ed Lee of Agir Montréal, a queer rights group who have been campaigning against Harper's proposed Bill C-31. Many activists have called Bill C-31 the Refugee Exclusion Act. We now go to that interview.
Ed Lee, you're part of a coalition of people who are not happy at all about Bill C-31. You say that it puts LGBTQ refugees' lives at risk. I'm just wondering, First of all, how much of an issue this is? How many refugees are there who are LGBTQ coming to Canada, coming to Quebec?
In terms of how many LGBTQ refugees arrive in Canada, it's hard to say. There's not a lot of statistics around it. Over the course of the last 10 years, there have been thousands. There have been a couple points in time where some researchers have been able to locate some approximate numbers, and so it's definitely in the thousands.
How do we know there are thousands?
For example, there's one researcher, Sean Rehig, who in 2004 located all of the refugee claims are based on sexual orientation specifically. Now, that doesn't include people who are LGBTQ who might apply for refugee status based on other claims, not just based on sexual orientation, but also somebody, for example, from Rwanda could have applied because of the genocide that was happening there, but could also be LGBTQ. So this the number doesn't include them, but I can't remember, unfortunately can't remember the exact number. It was over 1,000 over the course of 1 year. I think it was in 2004 or 2005. But I think overall with Bill C-31, one of the things that is the most worrisome is the fact that this bill is going to impact not just refugee claimants and accepted refugees, but also those who are accepted refugees who are now permanent residents. So those who have transitioned their status from refugee to permanent resident, all of those people who are not yet citizens will be impacted, potentially impacted, by some of the new provisions in Bill C-31.
They can go back and annul permanent residency. Yep.
Right. So what one of the clauses is called the cessation clause. And what this clause will do is that it would potentially give the government the power to identify permanent residents who were accepted refugees. So they could be here 5, 6, 7, 8 years plus. And if it is deemed that they're no longer in need of protection because their country conditions have changed. For example, if you're a trans refugee from Mexico and you have been a permanent resident for 3 years, if the government says, well, the country conditions have changed, there is now state protection for trans people, then they would have the power to say that their permanent residency would cease, and then they would have the power to deport that person.
But meantime, these people have set up a life of their own and started to live here.
Which is everybody, right? Anybody who's gained permanent residency has been here for at least 3 to 4 years, up to 8, 9, 10 years, sometimes more than that. Because sometimes it can take quite a few years before you gain refugee status. And then from the time that you gain refugee status, it can take 1 to 2 years before you become a permanent resident. So people will have established their lives here. It's really hard to say to how far reaching the government will go to target permanent residents. But the problem is that it's possible. So it's possible for the government to identify certain countries as no longer threatening for specific groups of people, and then to say that their status should be revoked, which obviously would pretty much ruin the lives of thousands of permanent residents who have established lives here, who are, you know, working, might have families, and obviously have a really strong community of people around them.
It's as if this bill is telling us that these people's lives are in limbo practically forever. It's going to take them a long time just to become refugees because they're going to be in detention for so long.
There's a new provision that would state that if the minister, I think it's the Minister of Public Safety, identifies a group of two or more people coming as irregular arrivals, then they would be placed in detention for a minimum of 1 year without the possibility of review. There are already hundreds of people who are being placed in detention, refugee claimants, so not people who are identified as criminals or whatever, but refugee claimants who are being placed in detention now. And conditions in detention, which there's been a few new reports that have come out by researchers who have done, you know, reports, have talked about the psychological consequences, the mental health consequences of those who are in detention even for a day or two. And what this new bill would do is give the government the power to decide that some refugee claimants should be in detention for at least 1 year. And this would also include those who are 16, 17. For children who arrive with their mom, with their mother, who are under 16, they would unfortunately have to decide, do I stay in detention with my parent, with my mother for a year, or do I go into state care?
I don't know how many 17-year-old Canadians are able to say repeatedly that they are gay, they are gay, they are gay. But apparently that's what's being asked of these new arrivals.
Yeah, part of, unfortunately, what the refugee process does, which it does now, so it's not something necessarily that's new, but because of these sort of harsher policies and the fact that, for example, more people will end up in detention, what that means is that LGBTQ refugee and refugee claimants will be more a risk of exposure to homophobia and transphobia, because when you're a refugee and you go to anybody, so whether it's a government official, a lawyer, obviously in detention it would be pretty much any immigration official there, you have to explain why you're claiming refugee status. And if the reason for why you're claiming refugee status is based on your sexual orientation or gender identity, then it's really hard to hide that. because that is the basis of your claim. And so you have to talk about that to numerous people, and you don't know what that response will be. Some people may be open and obviously not homophobic and transphobic, but then there are others who are, unfortunately, whether they be immigration officials, authorities, people, security guards working in detention, or lawyers or service providers or whomever. And so unfortunately, some of these policies in Bill C-31 will result in LGBTQ refugees being at higher risk of exposure to homophobia and transphobia.
One more thing. I know you've got a cold and I'm taxing you, but I'm sorry. Jason Kenney seems capable of looking at an atlas and deciding which countries are safe and which ones are not for homosexuality. How is he able to do that?
That's one of the things that is most problematic. And this, I think, would include also not just those who are LGBTQ, but also women as well, so refugees who experience gender-based persecution, because oftentimes for women and LGBTQ people, the kinds of persecution they face are within their families, within their larger communities, and then, you know, they're not able to have state protection. And so when you sort of identify an entire country as safe, that means that it'll be impossible for, or nearly impossible for, LGBTQ refugees to say, look, the kind of persecution I'm experiencing is from my family or from my community, and the state is not able to provide me with that protection. And unfortunately, for example, in the case of Mexico, what it appears to be from the outside is that Canada and Jason Kenney and the Canadian government is kind of thinking about sort of their own foreign policy interests. To be able to shut the door of refugee claimants to Mexico would allow them to further enhance their free trade agreement with Mexico, and also allow, for example, tourist visas, which they stopped a few years ago. Unfortunately, over the past few years, you know, Kenny and other government officials have identified a lot of refugees as bogus and as queue jumpers. And unfortunately, what that does is that dehumanizes an entire group of people, places them all in a box, and you don't actually realize how difficult the refugee process is, how draining it is, how re-traumatizing it can be. You know, and that's the kind of, I think, information that the broader sort of, you know, general population, especially citizens, don't really see. Unless you know of refugees or work with refugees, you don't see the everyday implications of the process and how hard it is for refugees now, before this bill is coming into play, and how the vast majority of refugee claimants would never go through this process unless they had to, unless they felt that their lives were at risk, because it is a really difficult process. And Bill C-31 will make it that much more difficult and will place thousands of people, their lives will be at risk because of this bill.
It's really wonderful to see among the people who've signed this press release, not just the Conseil québécois des gays et lesbiennes, but also Arc-en-Ciel d'Afrique, Gay et Lesbiennes Asiatique et Chelem Montréal, which is from Lebanon. And others. I'm wondering what you do just with a government that doesn't seem to be able to listen.
One of the key things for us, and it's been really great to be able to speak with all the other LGBTQ ethnic and racialized organizations here in Montreal, and for people to understand the implications of this bill, because it will impact all of our communities. And so that's been really great. I think one of the key things that we're really working on over the next few weeks is to raise awareness about the bill to the general population. So we're working, for example, in a short animated film to talk about these implications that will be accessible to the general sort of population, because I think for some reason there's not a lot of talk about this bill. Even though it's an omnibus bill, it's a huge bill. Some talk around the budget, for example, has kind of overshadowed this bill over the last week. And because I think it's on the second vote, it hasn't gone to the committee yet. And so there is still some space over the next month for us to pressure the government to try to make some changes to the bill, especially with the three things that we've identified around the cessation clause, the clause that will impact permanent residents, the clause that will make detention mandatory for a year for some refugees, and then the safe country. I really feel like with enough public pressure, the government may feel compelled to make some changes to the bill.
There is a website here, ccrweb.ca.
So the Canadian Council for Refugees, they're a really amazing organization, coalition of newcomer organizations across Canada. And they have a lot of really detailed information that people can turn to and places to sign letters or sort of how-tos as well. I mean, there's a bunch of organizations as well, such as Amnesty International, known as Illegal, all of our groups. There's a ton of groups that are working to raise awareness about this. And so, yeah, so I really encourage people to look at all of these organizations at their websites and to try to get involved and just even pass on the information.
Yeah, thanks so much, Ed.
Okay, Lee. Thank you.
There are currently over 200,000 students on strike in Quebec, trying to stop the Charest government tuition hike of $1,625. There are demonstrations, blockades, and occupations happening almost every day. Tune in to Off the Hour weekdays on CQUT from 5 to 6 p.m. for the Red Square Report, ongoing news and analysis on the student strike. For more info or to get involved, email news@ckut.ca.
If the kids are united, they would never be divided. If the kids are united, they would never be divided.
On Monday, April 12th, Place Amélie Gamelin at Barry UQAM was transformed into a sort of student movement utopia. There were students, activists, and families with small children milling about the park, all sporting red squares. There was a table where people were getting printemps érable screened onto shirts, and a free food table with chili and a box of apples, as well as a stage erected at the front of the square, with speakers and performers throughout the afternoon.
Le Québec est riche en tabarnak. De la forêt feuillue à la toundra, des sols argileux de la Abitibi au golfe Saint-Laurent, des lapins aux maringouins. Nous avons le devoir et la responsabilité, au nom de la communauté internationale, d'agir contre l'exploitation et la destruction. Jean Charest nous casse les oreilles avec un plan mort depuis un an qui va compromettre le fragile équilibre de ce beau grand territoire nordique. Le plan Nord ouvre la filière à l'uranium au Québec, prépare au massacre de hordes caribous, menace les milieux de vie et continue de détruire les modes de vie traditionnels des Premières Nations. 2,5 milliards, c'est plus de trois fois ce que nous coûterait la gratuité scolaire chaque année au postsecondaire.
Glass had described the protest as un événement historique d'éducation populaire, de création artistique et de politisation. It clearly had a different feel than the marches through the streets that have become ubiquitous since the beginning of the student strike in February. And it also clearly played a different role in the movement.
So could you introduce yourself?
Gabriel Nadeau-Dubois, spokesperson for La Coalition Large de la C'est la Classe.
And so could you just describe a little bit the protest that's going on today?
Well, today we decided to organize a big exterior meeting with thousands of citizens, of students, of workers to discuss, to have this event discuss on how can we open our strike, how can we try to go forward and move to the other step in our strike, maybe to go over the specific issue of the tuition increase and to contest more deeply the orientations of our government and of our country since the last years.
Okay, and so this protest is a little different from others. It's not marching in the street. It's kind of more listening to speeches. What role do you think this kind of protest plays in the overall movement?
Well, the goal is to maybe try to make citizens meet the students in strike, make them discuss about how can we work together. There were union leaders also who were there trying to discuss with the students on how can we find a common agenda in the next weeks to make this dream about the Printemps Québécois reality.
Okay. Do you think it's been a problem getting not students to be a part of the movement?
No. The opposite. I think it will probably make our movement stronger. It will prove to the government that he is wrong when he says that our strike is against the population. We've heard Madame Beauchamp saying that a lot in the last weeks, that our strike was in opposition to the workers, in opposition to the population. What we're trying to say today is that At the opposite, we are defending with the population, with the workers, our rights, our public services, and what chance is going to help us to break this pretension from the government of defending the interests of the population in general.
And just one final question. Does it concern you that the strike has been going on for such a long time at this point?
Well, we would have liked to win faster, but I think that each day that we are in strike, we're putting more pressure on the government. He will have more and more difficulty to extend the semester. So I think if we can make this strike last for maybe 2 or 3 weeks more, I think we are in a good position to win.
Je m'appelle Marie-Pierre Roy, je suis étudiante sage-femme à l'Université du Québec à Trois-Rivières.
OK, vous êtes venue jusqu'à Montréal aussi pour cette manif?
Oui, absolument. Je suis venue pour le rassemblement aujourd'hui. Là, on est quelques étudiantes sages-femmes à être venues aujourd'hui.
OK, et pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui?
Bien, en fait, on est ici, on est en grève, nous, les sages-femmes, depuis, c'est notre 4e semaine maintenant. On manifeste contre la hausse des droits de scolarité. C'est très, 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 très important pour nous, surtout au niveau de la profession sage-femme, qui est une profession jeune, et que l'accessibilité est très, très, très importante pour notre profession parce qu'on n'est pas beaucoup au Québec. Puis il y a beaucoup de femmes, comme dans ma classe en ce moment, il y a beaucoup de femmes qui n'auraient pas pu étudier, mettons, dans 5 ans avec la hausse, là, ils n'auraient pas pu commencer leur bac. Puis il n'y a tellement pas beaucoup de sages-femmes au Québec, puis on n'est pas beaucoup à être formés. Donc c'est super important de conserver l'accessibilité aux études, puis il faut que le gouvernement nous écoute.
Est-ce que vous avez l'impression que la hausse toucherait spécifiquement les femmes surtout?
Absolument, absolument. On sait que les femmes sont touchées principalement par les hausses parce que, bon, même si on aurait tendance à croire que l'égalité est instaurée au Québec, c'est pas vrai. Les femmes sont encore touchées par une inégalité au niveau du salaire. Donc, on demande aux femmes de s'endetter encore plus et elles vont encore plus avoir de la misère que les hommes à rembourser. Donc, ça touche encore plus les femmes, évidemment.
OK. Et une dernière question. Est-ce que ça vous soucie que la grève... vous êtes toujours en grève après 4 semaines?
Oui, évidemment. C'est assez concernant. Là. Nous, il va nous rester 2 semaines parce qu'on tombe en stage début mai. Donc, il va nous rester 2 semaines pour reprendre nos 4 semaines. C'est très, très alarmant. Et c'est sûr que nous, dans le monde idéal, on n'a pas envie d'être en grève. On n'a pas envie de faire la grève. Mais on n'a pas le choix. C'est le seul moyen. S'il y en a un meilleur moyen, on le ferait. Mais malheureusement, il n'en existe pas pour que le gouvernement nous écoute. Puis c'est triste. Et oui, c'est concernant parce que ça a un impact sur nos études. Mais la hausse des frais aurait un impact encore plus grand, selon moi, que la grève qu'on mène en ce moment.
So could you just introduce yourself?
Well, my name is Louis-Éric Trudeau. I'm a professor at the Faculty of Medicine in the Department of Pharmacology.
Okay, and why are you here today?
I'm here because I want to support the cause here, but the students have initiated this movement to ask the government to stop this idea of increasing the tuition fees. And I think I'm here because it's also a larger cause. It's a question of social justice and how the government is using our income tax. And I feel that the government should use our income tax for things like supporting education, and I support the idea that education should be almost free at all levels.
And so your students have been on strike for weeks now. What has it been like as a professor to have your students be on strike?
Well, obviously the strike has perturbed a lot the activities on campus, the courses, but most professors, many professors that I know are, obviously this perturbs their own schedule, their own life, but many of them support the cause, not all of them, but most of us, you know, are okay with this, understand why the students are doing this, and we are willing to adjust ourselves and, you know, perhaps find some original ways to make sure that the students are able to have a complete semester, even if there's little time left to do so.
And how would you respond to people who say that the student strike is kind of just students being immature and just being selfish and fighting for their own cause without really thinking about other people, like taxpayers, for example?
Well, that's an easy criticism to do, and you could do that same criticism about any big companies that benefit from government support. So the students are asking the government to revise their position on the tuition increase. boundaries, and is this the students being immature? I mean, I don't think so. I think there's probably many students that are there, and they don't necessarily know all the related issues, you know, about how the government uses the funds that they have coming from our income tax. So not all the students are at the same level, but I think that it's really not immature. It's actually, this movement that we see here is probably related to things like Occupy Montreal that we saw last fall. It's a much bigger issue about social justice, and I think the students are not being immature, they're being quite wise, I think.
Alors, comment vous vous appelez?
Michel Dugré.
Ok, et qu'est-ce que vous avez, c'est quoi le journal que vous avez là?
On utilise un journal qui est imprimé à New York et qui construit la solidarité avec les travailleurs en lutte à travers le monde à chaque semaine. C'est un hebdomadaire qui s'appelle Le Mervetin. C'est un vieux journal qui remonte aux années 20, en fait. Dans ce numéro-ci, par exemple, il y a bien sûr un article sur la lutte des étudiants, mais la couverture principale, c'est sur la lutte que mènent les travailleurs contre Rio Tinto ici au Québec. Les enjeux dans cette lutte-là sont très considérables pour tous les travailleurs. Essentiellement, la compagnie tente de détruire le syndicat et la capacité des travailleurs de se défendre. Mais l'autre lutte qui est très, très importante ici aussi, il y a eu des manifestations là-dessus, c'est la lutte à propos de Trayvon Martin, un jeune noir qui a été assassiné, lynché aux États-Unis il y a maintenant plusieurs semaines. Et la chose la plus... ça reflète encore une fois le racisme qui existe, mais ça, c'est bien connu. Ce qui est le plus important pour nous ici, c'est qu'il y a des combattants aux États-Unis qui ne laissent pas passer ça, qui n'acceptent pas ça et qui luttent. Et c'est avec eux qu'on veut vraiment se lier. Eux, ils montrent réellement c'est quoi la voie en avant pour tous. C'est très, très important, cette lutte-là.
Qu'est-ce que vous voyez comme parallèle entre la lutte pour la gratuité scolaire, la lutte des travailleurs et la lutte contre le racisme?
Dans les deux cas, les attaques contre les droits viennent des capitalistes aujourd'hui. On vit dans la plus profonde crise du capitalisme depuis les années 30, certainement, et vient du fait que les taux de profit des grands capitalistes ont baissé, continuent de baisser depuis des décennies. Et dans les conditions actuelles, la seule solution pour eux, c'est de nous arracher, à nous, les travailleurs, de nous arracher des droits, d'abaisser nos conditions de travail, de détériorer nos conditions de travail, nos salaires, et ainsi de suite. Alors, les attaques contre les droits font partie de ça. Ils coupent dans la santé, dans l'éducation. Ça fait toute partie de leur tentative de défendre leur profit à eux. Et c'est une lutte qui est réellement mondiale et on est juste au début de ça. Et dans les prochaines années, dans la prochaine période, ça va continuer à s'approfondir.
Alors, comment vous vous appelez?
Ange.
Ouais. OK. Et qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui?
Aujourd'hui, je suis venu montrer mon désaccord face à cette hausse, cette idée genre qu'on a eue de vouloir mettre une hausse des frais de scolarité qui est aucunement bonne pour la classe moyenne. Et moi, je me suis dit, autant venir, autant protester. Parce qu'en ce moment, on vit dans un monde où c'est que de l'injustice. On n'a pas de droits, on a juste des devoirs, en fait. Le devoir, c'est de payer. Mais à un moment donné, je pense que l'argent qu'on a sur cette planète, l'argent qu'on a au Québec, l'argent qu'on a au Canada, elle pourrait être mieux redistribué, puis elle pourrait être pour l'intérêt de tout le monde. Puis là, elle est pour l'intérêt d'une vingtaine de personnes, une quarantaine, une centaine, mille. Mais c'est un petit pourcentage par rapport à la population qu'il y a ici.
Okay. Et est-ce que vous êtes étudiant?
Non.
Non, OK. Et qu'est-ce que vous êtes en train de créer ici maintenant?
En fait, moi, je fais du street art, l'art de rue. Et là, en ce moment, je peux plus vraiment en faire. Donc, j'en fais légalement. Ça me permet, moi, de pouvoir créer. Et ça montre aussi que les étudiants, les gens qui ne sont pas étudiants, les gens qui vont dans des universités pour faire de l'art, pour apprendre, et pas pour être dans la marchandisation du savoir, montrer qu'on est capable de faire de quoi et qu'on est capable de se réveiller, qu'on est capable de créer, qu'on est capable de se bouger et qu'on n'est pas juste en train de boire de la bière et se défoncer. Donc c'est pour montrer la création qu'il y a en nous.
Comment vous vous appelez?
Marjolaine Arpin.
Et qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui?
Je viens en appui à la belle révolution qui est en train de se passer. Je suis en ce moment, je suis étudiante en histoire de l'art à l'UQAM, mais je suis aussi travailleur autonome à mon compte et tout. Donc, puis je crois profondément en les valeurs que défendent le mouvement et toutes les valeurs dans lesquelles ils sont ancrés, en fait.
Et pourquoi est-ce que vous pensez que c'est spécifiquement important à cette lutte contre la hausse des frais de scolarité?
Bien, en fait, parce que ça s'inscrit dans l'idéologie néolibérale l'idéologie de l'utilisateur payeur. Et ça, moi, je suis profondément contre. Et je pense que beaucoup plus de gens... je pense qu'en fait, si les gens analysaient bien cette idéologie-là et la comprenaient bien, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de gens qui seraient contre, parce que c'est un système qui dit si t'as de l'argent, t'as droit à la santé, à l'éducation, puis si t'en as pas, t'y as pas droit. Je trouve que c'est profondément contraire à ce que le Québec a choisi depuis en tout cas dans les dernières décennies. Je pense que si on continue là-dedans, on s'en va vers un monde où les riches vont s'enrichir, les pauvres vont s'appauvrir, et je peux pas croire qu'on s'en va là-dedans, en fait.
Est-ce que vous êtes en grève comme étudiante?
Oui, tout à fait, depuis le 13 février.
Est-ce que ça vous soucie que la grève dure aussi longtemps?
Bien, pas du tout, en fait. Je pense qu'il y a une bonne nouvelle là-dedans, dans un sens, c'est que le déni du gouvernement qui a fait durer le conflit, qui l'a nié, en fait, pendant les 5-6 premières semaines, facilement, il vient tout juste de commencer à réagir, d'une manière insultante, d'ailleurs, mais ça, on pourra en reparler. Mais je pense que ça nous a permis, justement, de faire voir à quel point cette lutte étudiante-là et cette grève-là va beaucoup plus loin que la hausse des frais de scolarité contre laquelle on est. On a pu, justement, débattre d'enjeux beaucoup plus profonds puis révéler tous les enjeux qui sont liés à cette lutte-là. Et je pense, en fait, que moi, je ne remercie... En quelque part, je pense qu'il faut remercier le gouvernement quasiment d'avoir fait comme si ce mouvement-là n'existait pas, parce que, justement, ça nous a permis de révéler à quel point, à quoi la hausse était liée, à quoi cette idéologie-là était liée, et de faire, dans le fond, de faire un débat en profondeur au niveau autour de ces enjeux-là.
OK. Et finalement, vous avez une belle fiche ici. Est-ce que vous pouvez le lire pour moi?
Oui. Triste Québec que celui qui accepterait assis de sombrer dans l'oligarchie néolibérale. Juste en dessous, sur un carré rouge, c'est inscrit non à la tarification des services publics, parce que je pense que c'est profondément lié, justement, à la tarification de l'éducation, la tarification de la santé. Ça, c'est ancré dans l'idéologie néolibérale et ce que je cherche un peu aussi à lancer comme message avec cette affiche-là, c'est que on n'est pas dans une démocratie, on est dans une oligarchie en ce moment. La définition d'oligarchie, c'est une petite élite dirigeante qui dirige dans ses propres intérêts. Et je pense que toutes ces décisions-là, elles sont justement tellement pas dans l'intérêt de la population, mais dans l'intérêt de gens au pouvoir qui veulent préserver leur pouvoir.
Class called the afternoon of April 9th at Emily Gamelin, a grand rassemblement populaire vers un printemps québécois. It did seem to serve as a boon to the student movement, as a reminder of the movement's ties with activism in Quebec and with resistance against the tide of neoliberalist policy in general. But as to whether it will lead to a printemps québécois, that remains to be seen.
Welcome back to Off the Hour here on CKUT 90.3 FM. The time is now 5:33. We will go now to a word from our sponsors, and when we come back, more news from the student strike. Do stay with us. Thank you.
Where To From Here, a conversation about journalism and its role in Canadian democracy. Thursday, April 19th, 7 p.m., a public event hosted by Journalism Strategies. Why is this an important moment in Canadian history for supporting journalism that supports democracy? Panelists include Tony Berman, former news director for CBC and Al Jazeera English, Dominique Payette, formerly of Radio Canada and author of a report on the future of journalism in Quebec, and Kai Nagata, who worked for CBC, then CTV before quitting. Discussions between panelists, questions from the audience, led by a moderator, coffee reception in the lobby after. That's Thursday, April 19th, 7 p.m. in the D.B. Clark Theater, Concordia University. Also check out Insights from Abroad with international guest speakers at the McGill Faculty Club, 6 p.m., Friday, April 20th. Both events are free and open to the general public. More information online, www.journalismstrategies.ca. This is a CKUT co-presentation.
Ça même, ça marche au Québec. Il y a le municipal, il y a le provincial, il y a le fédéral, il y a le bon Dieu, et de la tour dessus, il y a la loi des mines.
Plan Nord, plan Sud. Résistance dans les Amériques, crimes socio-environnementaux et minières canadiennes. C'est le troisième colloque international organisé par la Coalition québécoise sur les impacts socio-environnementaux des transnationales en Amérique latine. Des invités du Pérou, de la Colombie et du Mexique partageront avec des communautés affectées au nord comme au sud. 26, 27 et 28 avril, c'est un rendez-vous à l'Université du Québec à Montréal. Une co-présentation avec CKUT.
Welcome back. Le Collège de Valleyfield was the first cégep to vote in favor of the strike. Earlier this week, the Valleyfield College administration decided to force students to go back to school on Thursday, despite the students voting in favor of prolonging the strikes in their last General Assembly. Students reacted by blocking entry to the college all day yesterday. The Montreal-based coalition La Classe organized buses to Valleyfield to support the picketing. Hundreds of people gathered around the college as early as 7 a.m.
La situation, ce qui se passe, ce qui a mené jusqu'à l'occupation d'aujourd'hui?
Ben là, c'est ça. On avait un mandat de grève jusqu'à lundi. On était supposé refaire le vote, tout ça. Finalement, le directeur général, tout ça, a décidé de bloquer ça puis de reprendre les cours ce jeudi. Puis là, on bloque pour justement pas que personne rentre.
Puis, la demande de la ministre.
Ouais.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Ben, dans le fond, je trouve juste que, bah, t'sais, on est dans une démocratie ici, donc s'ils nous enlèvent notre droit de voter, ouais. On a voté pour, fait ouais. Qu'on serait censé venir notre semaine de grève puis arriver à un autre vote.
Ouais.
Mais ils nous ont enlevé notre droit de ouais, en démocratie, ça. Donc c'est sûr que ça nous met en colère puis c'est normal qu'il y ait des lignes de piquetage aujourd'hui pour ça.
Est-ce que vous pouvez décrire un petit peu ce qui s'est passé jusqu'à date ce matin?
Nous, on est arrivés un petit peu plus tard. On n'est pas arrivés à 6 heures. Mais je sais qu'à la radio, ils ont dit qu'il y avait 200 personnes à date puis qu'il allait y avoir beaucoup d'autobus puis de gens de partout au Québec qui allaient venir. Ouais. Ils ont bloqué toutes les portes à date. Il y a eu un levé de cours.
Puis vous autres, vous étudiez en quoi?
Moi, je suis en sciences humaines présentement, mais je prévois faire une technique puis un bac. Donc là-haut, je vais la subir si jamais je fais pas ça.
Ouais.
Moi, j'étais en accueil intégration pour m'en aller en sciences humaines profilement.
Voulez-vous parler peut-être un peu de... C'est quoi la situation pour beaucoup des gens ici à Valleyfield, côté économique?
C'est une ville qui est plus pauvre, peut-être un petit peu, au niveau richesse. Fait que déjà là que c'est dur, il y en a qui ont déjà de la misère à arriver pour payer juste le cégep. Fait qu'on s'imagine pas l'université si les frais augmentent. Ouais. Moi, je crois que ça va beaucoup toucher la classe moyenne parce que même s'ils nous disent qu'il va y avoir plus de prêts et bourses, les normes changent pas. Fait que les gens de la classe moyenne, même si nos parents ont un salaire plus haut, on peut pas avoir accès à des bourses, nous. Donc, c'est dommage pour la population.
Alors, Michel Duchesne, je suis enseignant au Cégep Montmorency à Technique de Tourisme et président du syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep Montmorency.
Qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui?
Ben, on vient, c'est de la solidarité avec les étudiants et les enseignants du cégep de Valleyfield. On pense que c'est une action symbolique parce qu'on pense que le gouvernement cherche à ouvrir une brèche et à utiliser l'exemple. Bon, les verts arrivent, alors à utiliser ça en exemple.
Donc, le groupe de personnes portant le carré rouge sont en cercle autour de quelques étudiants abordant le carré vert qui signifie leur opposition à la grève. Et ces personnes qui ont le carré vert sont assis par terre dans l'herbe et étudient. Font semblant d'étudier peut-être.
Distributeurs de cochonneries et de bonheur préfabriqués. Allez-vous-en faire un petit pan de tête de chez moi, j't'en ai d'entendre vos conneries, vos saloperies, vos bon mentries, des voir aux yeux ambitionnés, crier au pied, j'ai réussi. Hostile, ici au moins, y'en avait moins, y'en avait moins.
Alors, l'attaque des verts.
Oui.
Oui, alors, c'est de la solidarité avec le mouvement. Pour nous, les étudiants paieront leur part quand ils seront diplômés. Il y a toutes sortes de façons de financer les universités, autres que de faire payer les étudiants qui sont déjà endettés. Les seuls qui vont en profiter, ce sont les grandes banques qui sont déjà immensément riches. Ils ont déclaré 7 milliards de bénéfices nets dans les trois premiers mois de l'année au Québec seulement. Alors, c'est eux qui encaissent les profits. Est-ce qu'ils font leur juste part? Je ne crois pas. Nous, on n'a pas l'intention de rentrer au travail, même si la ministre force les directions à ouvrir les cégeps. Alors là-dessus, on est inflexible.
Vers 9h30, Jeanne Reynolds, la co-porte-parole de la classe, a pris le micro pour dire que le collège venait d'annoncer la levée des cours officiels pour la journée. Certains manifestants bloquaient les portes du collège depuis 4 heures du matin.
Il y a pas mal de gardes de sécurité qui sont en dedans.
La sécurité a augmenté au cégep ici, ça c'est certain. On l'a vu dès hier soir, là. Il avait engagé plein de gardes de sécurité. Il faisait le tour en voiture. La police a été invitée très tôt le matin à venir. On les voyait régulièrement faire une ronde. Ils ont intimidé un peu ce matin. Ça c'est bien, ça s'est calmé lorsqu'il y a eu assez de manifestants. Fait que
là, ils sont en dedans du collège pour la plupart?
On imagine. Là, on a vu quelques-uns à l'intérieur, mais la plupart n'ont pas réussi à rentrer. Il y en a qui ont peut-être passé la nuit en dedans. Ça, on n'est pas. Nous, on a été obligés de sortir à 10h30 du cégep hier soir.
OK. Puis là, on a laissé une couple de personnes sortir à la porte ici en arrière?
Oui, ça, les gens des résidences, il y a eu une hésitation un instant, mais on n'est pas pour séquestrer les gens à l'intérieur. On les laisse sortir, on laisse les voitures circuler jusqu'à l'extérieur aussi. C'est juste une fois qu'ils sont à l'extérieur, ils savent qu'ils peuvent pas re-rentrer parce que là, il faudrait traverser les lignes de piquetage.
OK. Toi, t'es un ancien étudiant?
Moi, je suis un ancien étudiant du cégep de Valleyfield ici. Je suis présentement à Maisonneuve. Donc, moi, ça me touchait parce que je veux revenir dans ma ville de Valleyfield, puis c'est un combat qui me touche. Hein.
Ouais.
Certains étudiants qui n'étaient pas au courant du blocage se sont présentés pour aller à leur cours.
Comme nous autres, on y va jamais ensemble, on sait pas comment ça marche, puis pour
reste... Ouais. Vous devriez dire là, qu'il devrait toujours avoir 30 minutes au début, de, on explique les procédures.
Voilà, mais là, tu vois, apparemment, c'est vrai.
Ouais, mais là, vous avez le droit de critiquer votre exécutif aussi là-dessus.
C'est vrai. Si j'avais une partie de dire la grève, même moi. Même
ça
moi,
affecte tout le monde.
Par ce moment, si j'avais le choix d'être en grève, je ne pourrais pas. Mais en même temps, je sais que c'est le moyen de pression dont on dispose à l'instant.
Mais c'est pas comme s'il n'était rien arrivé d'autre avant, là, depuis 2 ans, qu'il y a des affaires qui se passent, les gens essaient de négocier, essaient de parler au gouvernement, ils n'ont jamais rien fait, ils ont toujours ignoré. dernier recours, la grève générale est limitée.
Bon, c'est une partie de personne.
Non, non, c'est ça. Oui. Faut pas que le monde pense qu'on fait le party et qu'on trippe, là. Non, pas en tout. Nous autres ici, on a des jobs. On a des jobs d'été, on a plein de choses. Lâchez pas, puis allez à vos assemblées générales. Lisez le code de procédure.
Vers 11h, le président de l'Association générale des étudiants du Collège de Valleyfield, Justin Arcan, s'est adressé aux picteurs.
J'ai fait une petite mise à jour, là, un état de la situation en ce moment. Ce qui arrive, c'est que, bon, évidemment, la direction générale a levé les cours pour la journée. Mais, on demande plus que ça. On demande à ce qu'ils lèvent les cours demain et lundi pour l'Assemblée générale de reconduction. Ces cours-là ne sont pas encore levés, par contre. Les seuls cours qui sont levés, c'est les cours d'aujourd'hui. Nous, on demande à ce qu'ils lèvent demain et lundi. Ça, c'est pas encore gagné. D'où le pourquoi on doit continuer de bloquer pour les pousser à négocier puis à accepter ces revendications-là. En plus de ça, on demande à ce que si la grève lundi, elle est reconduite, que l'entente qu'on a depuis 2 mois, qu'elle soit aussi reconduite, puis que la direction générale amène des excuses publiques à tous les étudiants et étudiantes du Québec. Ce blocage-là a surtout de l'impact pour plusieurs raisons. Premièrement, on a un traiteur privé dans le collège que ce matin, il a dû tourner de bord sans sa bouffe pour les buffets qui étaient à l'extérieur. Il y a une salle de spectacle. Il y a un spectacle à midi. S'il ne recule pas d'ici là, le spectacle, il va tomber à l'eau, malheureusement. La bibliothèque, c'est une bibliothèque municipale. Jusqu'à maintenant, les citoyens et les citoyennes n'ont pas accès à la bibliothèque municipale parce que M. Laperrière, jusqu'à maintenant, n'a pas reculé sur l'intégralité de nos revendications. Il ne faut pas lâcher, on va gagner. Ces revendications-là, on va les pousser jusqu'au bout. La direction est au courant de ces revendications-là. Maintenant, reste à négocier. Puis pour négocier, il va falloir continuer de perturber. On voulait aussi remercier là, les gens de l'extérieur qui sont présents et présentes aujourd'hui. C'est super apprécié. On voit que, encore une fois, le mouvement existe, puis il est loin d'être petit. Puis ça, c'en est la preuve, encore une fois, qu'on a réussi à créer un mouvement de solidarité incroyable, surtout quand on voit les parents et les profs contre la hausse qui sont aussi présents et présentes aujourd'hui.
Aujourd'hui, vendredi, les étudiants et leurs alliés ont encore tenu des lignes de piquetage fermes dès l'aube. Ce matin, on pouvait lire dans la presse que le collège avait annulé les cours pour la journée. La prochaine assemblée générale aura lieu lundi à 8h du matin.
Pourquoi tu vis dans la rue? Tu dis, passe-moi un poc. J'ai dit, passe-moi un poc. Passe-moi un poc, puis je vais raconter des buts. Yeah!
Welcome back to CKUT. You're listening to Off the Hour. We will now go to something prepared by our journalist Nick Boisvert. The proposed tuition hikes will compromise women's access to post-secondary education. Today, la Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes organized a gathering in front of the Ministry of Education.
Que le système dans lequel elle s'inscrit et nous interpellons Mme Christine Saint-Pierre, ministre de la Condition féminine, sur le sujet. Nous, féministes, nous opposons à la hausse des droits de scolarité. Le système économique capitaliste, en perpétuelle quête d'une augmentation des profits, domine et impose son idéologie dans toutes les sphères de nos vies et accentue l'accroissement des inégalités. Ce système crée davantage de problèmes sociaux par ses mesures néolibérales de désaffiliation de l'État, de privatisation des services publics et de diminution des programmes sociaux qui, toutes, appauvrissent la majorité de la population. Dans un système où l'on mise davantage sur l'accroissement des capitaux et le redressement des banques, le discours dominant porte davantage sur la logique marchande et la rentabilité que sur l'amélioration des conditions de vie de la population. Honte à vous qui veillez au remplacement des politiques sociales par des politiques économiques. Quand il apparaît plus important d'accumuler des millions que de les redistribuer équitablement, il est impératif de reprendre le contrôle. Nous, féministes, nous opposons au système capitaliste qui détruit le tissu social de notre société. Nous, féministes, nous révoltons contre le système dans lequel la hausse des droits de scolarité s'inscrit, un système capitaliste, patriarcal, hétéronormatif, raciste, un système qui appauvrit les étudiantes et les étudiants. Ce sera pas long. Nous, féministes, nous opposons à la marchandisation de l'éducation et revendiquons une démocratisation du savoir. Nous, féministes, nous opposons à l'hétéronormativité et aux mesures hétéronormatives mises en place telles que la contribution parentale dans le calcul de l'aide financière. Nous, féministes, nous opposons au racisme intériorisé de la hausse des droits de scolarité affectant directement la diversité sociale des étudiantes et étudiants au niveau post-secondaire. Et voilà, merci de diffuser grandement.
We will now listen to an interview that Nick did with Eve-Marie Lacasse, spokesperson for the Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes.
Votre nom?
Eve-Marie Lacasse, porte-parole de la Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes.
Donc, est-ce que le ministère de l'Éducation ou le ministère de la Condition féminine ont reconnu les revendications de la Fédération des femmes du Québec?
Non, en fait, les revendications de la Marche mondiale des femmes qui est contre la hausse des frais de scolarité n'ont pas été entendues par la ministre Saint-Pierre de la Condition féminine ni par la ministre Beauchamp, qui est la ministre de l'Éducation. Donc, on est ici aujourd'hui pour le rappeler, justement, en avant du bureau du ministère de l'Éducation, donc de la ministre Beauchamp, pour lui rappeler que cette hausse-là, c'est une hausse de frais de scolarité qui va pénaliser tout le monde, mais en particulier les femmes aussi. Donc, encore aujourd'hui, en 2012, on sait que les femmes à travail égales n'ont pas le même salaire que les hommes. Pour un dollar gagné par un homme, la femme va recevoir 71 cents comparativement en moyenne. Donc, c'est une hausse sexiste qui va hypothéquer gravement les conditions de vie des femmes à long terme.
Et vous êtes en solidarité avec le mouvement, avec la grève étudiante en général au Québec?
Oui, on est en solidarité. C'est pour ça qu'on a tenu à tenir ce rassemblement-là aujourd'hui. Parce que c'est une hausse sexiste, mais c'est aussi, il y a des féministes qui sont présentes dans toutes les associations étudiantes. Il y a des manifestations à tous les jours. Les étudiants ne chôment pas, ne se taisent pas, ils sont présents partout. Et c'est important de souligner au gouvernement que ce n'est pas que les étudiants qui sont en grève. Il y a des mouvements partout à travers le Québec qui les appuient, que ce soit des professeurs, que ce soit des syndicats, que ce soit des groupes de femmes, que ce soit le mouvement écologiste ou autre truc comme ça. Des parents aussi qui appuient énormément les revendications contre la hausse des frais de scolarité. Donc, c'est important de signifier que c'est un mouvement social, c'est une lutte sociale, c'est pas juste une lutte étudiante. Et le gouvernement libéral essaie de diviser les forces en ce moment en disant que les étudiants sont égoïstes, ne veulent pas investir dans leur avenir. Mais c'est un devoir social d'offrir une éducation de qualité et accessible à toutes et tous. Et c'est pas ce qui se passe en ce moment avec la hausse de 1625 qui est annoncée.
Est-ce que le gouvernement charrie un historique d'écouter les demandes de la Fédération des femmes du Québec?
Le gouvernement libéral, en fait, a un historique de ne pas écouter grand-chose, quand c'est des demandes qui viennent de mouvements sociaux qui prônent une plus grande justice sociale, qui sont de nature progressiste et qui veulent améliorer les conditions de vie en général des personnes les plus défavorisées. Le gouvernement du Québec ne se trouve pas en ce moment de ce côté-là du tout. Il se positionne clairement du côté du patronat, du côté du grand capital et du côté des personnes qui ont de l'argent. Au contraire, hausse les frais de scolarité ou les services publics comme la taxe santé ou Hydro-Québec. Et c'est dans les poches de la classe moyenne et des petits contribuables que cet argent-là va être pris, et non dans les poches des grandes entreprises qui ne paient à peine d'impôts au Québec.
Au-delà des demandes vis-à-vis les frais de scolarité, ce que le mouvement des femmes revendique au Québec?
Le mouvement des femmes revendique le retrait de la taxe santé, qui est de 200 $ l'année prochaine, le retrait de l'augmentation des frais de Hydro-Québec, entre autres. Tout ce qui est la privatisation ou la tarification des services publics en général, le mouvement des femmes s'oppose à ces mesures-là. Le mouvement des femmes prône aussi, par exemple, un meilleur salaire minimum. En ce moment, le salaire minimum ne permet pas à quelqu'un qui travaille à 40 heures semaine d'atteindre le seuil de faible revenu. Donc, une hausse à 11,71 $, je crois, du salaire minimum. Donc, on a plusieurs revendications là, sur ces questions-là.
Et finalement, les prochaines étapes?
Au niveau de la lutte étudiante. En fait, moi, je pense que les prochaines étapes, c'est d'être le plus présent aux côtés des étudiants et étudiantes dans les rues et de ne pas plier, de démontrer notre solidarité de plus en plus parce que les moments sont importants en ce moment. C'est en ce moment qu'on parle d'annulation de session et que la peur peut s'installer. Et c'est à ce moment-là qu'il faut démontrer un front commun encore plus uni.
Merci beaucoup.
Merci.
That was an interview that Nick Boisvert did with Eve-Marie Lacasse. We will now go to some headlines from Free Speech Radio News, which is a radio show out of the U.S. that has national...
And I'm Jess Burns with headlines for FSRN. Police arrested 23 protesters who locked themselves inside a Chicago mental health clinic last night. FSRN's Lisa Matuska has more.
As of Friday afternoon, 12 people remained in custody and 11 had been released after police cleared an occupation of the Woodlawn Mental Health Clinic on Chicago's south side. The Woodlawn Clinic, located in a largely low-income African-American neighborhood, is one of six public mental health clinics to be closed due to city budget cuts. Thursday afternoon, patients and supporters gathered for what started as a feast and a celebration, but what was actually a planned occupation. Nadana Carter calls herself a consumer of Chicago's mental health system and has been organizing with a local group to protest the closings of the clinics.
And we're going to stay and keep all of these clinics open. And we're going to travel to each clinic to speak. Last week, two clinics closed. The only clinics that service the Hispanic community.
Addressing a group of supporters outside the clinic, she then announced the occupation and quickly joined the group of 23 people who locked themselves inside the clinic. At 1 a.m., police cut the padlocks and arrested the protesters. The Chicago Department of Public Health claims the cuts will not affect people's access to mental health services, but organizers say they want further investigation. They have requested that the City Council hold a hearing to assess the consequences of these closures, but the request has not been granted. The Woodlawn Clinic is slated to close April 30th. Lisa Matuska, FSRN, Chicago.
In a 2-1 vote, a federal appeals court has struck down a ban on political advertising on public television and radio. The judges said political speech is a core protection under the First Amendment and does not pose a threat to the non-commercial nature of the formats. A former PBS board member told Reuters that the decision, quote, moves us further away from what remains of a public square. The state of Texas is expected to respond today to a Justice Department challenge to its controversial new voter ID law. The feds are requesting previous communications between lawmakers to prove their intentions were to exclude minorities. From San Antonio, FSRN's Andrew Oxford reports.
Under Texas's new voter identification law, 600,000 voters could be excluded from upcoming elections, according to a brief filed by the Department of Justice in federal court on Wednesday. The federal government says excluding these voters, most of them from minority groups, is the intent of the law. Now the Justice Department hopes to prove that by forcing state legislators who authored the new rules to disclose their internal communications on the matter. Civil rights groups challenging the voter ID law are supporting the Justice Department's efforts. Luis Vera is lead counsel for the League of United Latin American Citizens.
It's the same thing we did in redistricting. The federal court may force them to release 400-some-odd emails, and in there it shows all the intents of discrimination in the redistricting process. Well, we know that the same existed in the voter registration process. That is a purging of Latinos and Black Americans.
The state has so far rebuffed calls for greater disclosure, and Attorney General Greg Abbott previously called the Justice Department's legal challenge an intrusion on the state's rights. Andrew Oxford, FSRN, San Antonio.
Neighbors, activists, and elected leaders gathered Thursday afternoon calling for a federal moratorium on foreclosures nationwide. The crowd assembled in the front yard of 57-year-old Detroit resident Willie Delbridge. Advocates vowed to support foreclosure legislation and to stand in unity against uncooperative banking institutions. From Michigan, FSRN's Monica Ross Williams reports.
Carrying red and white signs, advocates gathered in an effort to prevent Willie Delbridge's impending eviction from his property. Delbridge questioning why banks receiving taxpayer funded federal bailouts use bullying tactics to remove homeowners from neighborhoods.
Well, you got a weak economy, you got people losing jobs, and you got people that don't have to worry about that. Mm-hmm. Just invading and stepping on these people's toes and threatening them and pushing them and scaring people away from their properties. And it just don't make sense. It isn't fair.
A bill proposed by U.S. Congressman Hanson Clark would suspend foreclosures nationally for up to 3 years.
Let's not just evict homeowners out of their homes.